Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Je vous appelais par rapport à ma femme.
Oui.
Qui a des soucis dans le travail, mais c'est pas nouveau. Ça fait des années que ça dure.
Ah bon.
Et
qu'est-ce qui se passe dans son travail? Enfin, c'est quel genre de soucis plus exactement?
Alors c'est un peu du stress, un stress chronique,
oui.
De l'anxiété et un peu du manque de confiance en elle au travail.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à avoir un emploi stable.
Oui.
Et souvent, c'est au bout de la période d'essai, on lui dit « Ah, on ne vous sent pas sur ce poste, on vous sent trop stressé, on ne vous sent pas à l'aise. » Et puis, elle ne passe pas le cap de la période d'essai.
Et, c'est malheureusement son anxiété qui est préjudiciable, quoi. Ça affleure et du coup, évidemment,
voilà, oui,
elle manque beaucoup de confiance en elle. Ça se répercute dans d'autres domaines de votre vie?
C'est surtout, je pense que c'est surtout dans le travail.
D'accord. Oui, avec vous, ça va mieux dans le couple, dans la vie de famille?
Il y a un peu des conflits. Des fois, c'est lié à ça. Parce que justement, des fois, ça nous bloque dans les projets de vouloir acheter une maison.
Oui.
Et après, la précarité dans le travail, ça fait que les banques
ne prêtent
pas.
Elle a quel âge, votre épouse?
Elle a 43 ans.
43 ans.
Ouais.
Et donc, elle n'arrive pas, à avoir un emploi stable du fait de...
Oui. Ouais.
Et elle ne s'est jamais penchée là-dessus, parce que pourquoi elle a si peu confiance en elle?
Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au passé, à son enfance et son adolescence.
Ah oui.
Et surtout les relations avec sa mère.
Ah bon? Pourquoi? Quelle relation?
Elle a une personnalité un peu spéciale, c'est-à-dire elle a personnalité très positive, beaucoup de qualités par certains points, par exemple la générosité, très très serviable.
Mm-hmm.
Mais par contre, je pense qu'elle a, enfin, je sais pas, je pense c'est qu'elle me l'a dit qu'elle a été beaucoup dévalorisée dans son enfance.
Ah bon, par sa
mère.
En lui
disant que sa mère lui disait qu'elle était une bonne à rien, que
ah oui,
qu'elle était comme une tante à elle, en fait, la sœur de sa mère
ah
et
oui,
la tante de ma femme, qui est quelqu'un de un peu handicapé, qui a probablement été un bébé secoué. Enfin, j'ai appris.
C'est terrible.
Récemment. Et qui vit très difficilement, qui a toujours vécu seule dans son petit village, dans sa petite maison, qui a jamais eu de mari, d'enfant, qui a jamais pu passer le permis, qui se déplace avec une petite voiture sans permis. Enfin, vous voyez à peu près le topo, quoi.
Et donc c'est la sœur de votre belle-mère, hein, c'est ça?
Voilà. Ouais.
Dont vous me parlez. Et donc votre belle-mère disait à sa fille, donc à votre femme, qu'elle était une bonne à rien, et la comparait constamment à cette tante.
C'est ça. Et puis
comment voulez-vous qu'elle ait confiance en elle? Elle a dévalorisé constamment. Enfin, elle lui coupe les ailes là.
Oui. Et puis en même temps, sa mère, c'est un peu la ménagère modèle, très sur les tâches ménagères, bien s'occuper des enfants.
Sur les tâches ménagères, elle est peut-être modèle, mais pas du tout au regard de ce que vous me dites du comportement avec sa fille, hein.
Ouais.
Mais en plus, ce qui est terrible, vous me dites qu'elle la compare à cette tante, donc qui est sa sœur, et vous me dites, Stéphane, que cette tante aurait été un bébé secoué.
Oui, j'ai entendu ça dans la famille, mais j'arrive pas à y croire, en fait, parce que.
Oui, parce que parfois, malheureusement, ça peut être dit de façon péjorative. Genre on l'a bercé trop près du mur, cette expression.
Non, terrible. Non, c'était non, pas, pas, non, ce c'était pas de façon en plaisantant en fait. C'était, mais je sais plus comment j'ai. Comment
parce que
j'ai
ça laisserait ça, en entendre qu'il y a de la maltraitance. Malheureusement, les bébés secoués.
Oui, en fait, c'était une autre époque et puis les gens ne savent pas les conséquences.
Non, autre époque. Oui, enfin. Ouais. L'autre époque, elle a bon dos pour justifier les violences hein, faites aux enfants. Bébés secoués, certains en meurent. Parce que c'est quand ils ne peuvent pas tenir leur tête et effectivement, la tête part en arrière et ça crée des traumas au cerveau. Parfois irrémédiables et parfois même les bébés en meurent. Mais je trouve, vous voyez, avec une histoire, enfin quelque chose d'un peu tragique, ou en tout cas autour du handicap, des zones d'ombre, et quand bien même ça n'aurait pas été lié à une histoire aussi traumatisante, cette tante qui a ses problèmes, mais il y a quelque chose aussi de très méprisant. Voyez, vous me la présentez, votre belle-mère, comme quelqu'un de très serviable, de très généreux. Et en même temps, vis-à-vis de sa fille, elle lui dit qu'elle est une bonne à rien, qu'elle ressemble à sa tante, donc sa sœur, qui est handicapée. Où est la générosité là-dedans hein?
Oui, moi, quand je suis arrivé dans cette famille comme gendre, comme beau-frère, j'ai trouvé j'ai trouvé que ma femme était un peu un bouc émissaire, que un peu tout le monde lui tombait dessus quand il y avait de la colère, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était un peu comme des éclairs qui lui tombaient dessus, quoi. Les repas de famille, c'était. Et ça reste encore certaines fois.
Et comment en réagit-elle
qui ça?
Votre femme? Quand justement les repas de famille, où tout d'un coup, elle est la cible de critiques, le bouc émissaire.
En général, elle se referme un peu.
Oui, elle ne réagit pas.
Oui, elle réagit pas.
Et vous
pas.
Et puis, comment vous réagissiez quand
Moi, j'ai essayé de. C'est compliqué, en fait, quand on a plusieurs personnes.
C'est vrai.
Contre soi. Mais ouais, j'ai entendu des trucs dans cette famille, ça m'a fait. Par exemple, quand on s'est fiancé, c'était. Je ne sais plus ce que j'avais dit, mais ma belle-sœur a dit on te la donne, on te la donne. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de
condescendance, de mépris.
Ouais, voilà. C'était, ça, pour moi, ça voulait dire elle n'a pas de valeur, ça voulait dire bon débarras. Ça voulait dire, elle est casée.
Oui, je suis d'accord avec
vous. Ça m'a choqué. Quand j'ai repensé les derniers jours, ça me choquait. Là, par exemple, récemment, ce qui s'est passé, c'est que ça illustre bien, en fait, ma belle-mère. C'est que là, par exemple, elle a gardé les enfants pendant 3 semaines.
Vos enfants?
Et 2 semaines. Oui. Et puis, quand elle les a ramenés, il y a eu. Le samedi, c'était très sympa, l'après-midi. Et puis, j'ai remarqué, il y a toujours le premier jour, ça se passe bien. Et le deuxième jour, il y a toujours un espèce de coup de tonnerre où elle s'énerve, elle se met à crier. Et le dimanche, en préparant le repas, en commençant à manger, elle a commencé à hurler, à sortir des vieux dossiers en disant, en reprochant des trucs à ma femme sur des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Sur ses copines, qu'elle avait des copines qui avaient des problèmes, des choses comme ça, que des trucs. Mais il y a toujours.
Des faits anciens où il y a complètement prescription. Et puis, où à chaque fois elle l'accable, alors que, en plus, au contraire, finalement. Votre femme avait des copines qui avaient des problèmes, ce qui est le signe aussi d'une. Au fond, d'une sensibilité chez elle. Et puis peut-être, elle aussi avait des problèmes et avait des soucis et était malheureuse. Mais au fond, tout est reproche. Votre belle-mère n'a aucune empathie.
Il y a beaucoup de culpabilisation, en fait, dans ses paroles. Il y a beaucoup de. enfin, elle s'en prend toujours à elle, quoi. Ça,
vous êtes témoin de ça.
Ça change pas. Oui, et moi, je sais pas comment réagir parce que elle a quand même un fort caractère. Et,
vous la craignez?
D'une certaine façon, je la crains un peu, oui. Je crains de m'opposer à elle parce qu'il y a aussi des choses dont on ne peut pas parler parce qu'elle veut pas se remettre en question.
Oui. Enfin, comme,
ouais. Et puis. Oui, il y a toujours des reproches.
Ça serait bien pourtant pour votre femme qu'à un moment, en restant correct, mais vous disiez à votre belle-mère que vous n'acceptez pas qu'elle lui parle de cette façon-là.
C'est difficile parce que, il y a. Souvent, c'est plusieurs personnes, c'est un peu un tir groupé en fait.
C'est ça.
Donc, c'est.
Mais vous les voyez souvent?
Ben, heureusement, ils habitent pas très près, mais on les voit quand même. On les voit quand même souvent en petites vacances parce que elle nous propose souvent de garder les enfants et c'est vrai que ça nous arrange.
Comment elle est avec vos enfants?
Ben, heureusement, ça se passe bien.
Quel âge ont-ils, vos enfants?
Ben, ils sont à fin de primaire et au collège.
Garçon, fille?
Oui, une fille en premier et un garçon.
Comment elle est avec votre fille?
Ben, alors j'essaie de regarder comment ça se passe. Ça se passe plutôt bien, mais par contre, elle a tendance à pas la valoriser.
Tiens donc.
Et alors le garçon, par contre,
ben, voilà.
Lui passe la main dans les cheveux. Ah, oh, ben toi, t'as telle qualité, t'aimes bien les maths, t'as l'esprit logique et tout ça.
Et votre fille, elle en dit quoi quand elle revient de chez sa grand-mère? Est-ce que par moment, elle dit j'en ai un peu marre ou est-ce que.
Non, elle se plaint pas. Non, je pense qu'elle est un peu. Non, elle est épargnée par rapport à ça. Pas comme ma femme, mais.
Oui, certainement moins, mais en fait, vous avez la remarqué que là aussi, elle aurait tendance à dévaloriser votre fille au détriment de votre fils.
Ben, je sais pas si. En tout cas, elle la valorise pas.
C'est ça. Mais vous, Stéphane, je me dis en vous écoutant, elle a de la chance, votre femme, d'avoir un mari comme ça attentif. Vous avez bien. Enfin, on sent que vous essayez de comprendre ce qui s'est passé pour elle. Vous avez beaucoup d'empathie. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui était lié à son histoire, à la relation avec sa mère.
Ouais. Ben oui.
Pourquoi elle se fait pas aider, votre femme?
Si elle se fait aider, elle voit un psychiatre et un psychologue ou psychothérapeute. Elle a essayé de elle fait de l'EMDR, mais c'est pour autre chose, c'est pour quelque chose de traumatisant qu'elle avait vécu vers ses 20 ans.
Ah, parce qu'elle a aussi vécu un épisode, d'accord, traumatisant.
Ouais, parce que ben sa mère aussi l'a une fois, je sais pas pourquoi, dans l'enfance ou l'adolescence, elle l'a traitée de pute, de salope.
Oh non.
Au moins une fois. Oh, je sais pas si c'était plusieurs fois, mais au moins une fois, ça c'est sûr.
Oui, mais c'est une fois de trop,
c'est ça. Ben en fait, je pense qu'en est enfant, on pense que les parents ils veulent, s'ils disent ça, ils veulent qu'on soit comme ça en fait. Donc,
enfin, c'est terrible, une mère qui traite sa fille de ces mots-là. Enfin, on voit.
Ben,
mais ça en dit long sur l'image qu'elle a de la féminité, d'ailleurs, cette femme, votre belle-mère. Et alors, donc, oui, parce que je parlais de ce traumatisme. Donc, une fois adolescente, ou peut-être au moment où elle était, ben, enfin, comme. Justement, aussi devenant une jeune fille, une jeune femme, donc elle l'humilie. Des termes comme ça très, très vulgaires. Et.
Ouais. Excusez-moi, je ne savais pas comment le dire.
Mais vous avez bien fait de le dire, parce que c'est les termes qu'elle a utilisés. Ouais. Moi, je ne les redis pas, parce que c'est on a compris. Mais vous avez bien fait de les dire. Vous n'avez pas à vous en vouloir, Stéphane.
D'accord.
C'est les propos. Ce sont les propos de votre belle-mère, et ça en dit long sur l'image qu'elle a aussi d'elle en tant que femme. Voyez, parce que traiter sa fille de pute ou de salope, je vais le redire. Vous voyez, de la part de la mère, comment voulez-vous que votre femme elle ait confiance en elle? Et la pauvre, aujourd'hui, c'est elle qui... Vous voyez, votre belle-mère, elle ne se remet pas en question, elle. Et c'est femme qui souffre et qui va voir des psys et voilà.
Ben, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que en fait, les gens qui font du mal, souvent, ils ne vont pas consulter
c'est
parce
vrai.
que la situation leur va bien parce qu'ils sont en position de force. Mmh. Et ceux qui subissent des mauvaises paroles, des mauvais actes des autres, bah, c'est eux qui vont consulter parce qu'ils se retrouvent fragilisés, ils se retrouvent faibles.
C'est vrai, vous avez
raison. Et en fait, ceux qui font du mal, ils devraient autant aller voir des psys. Hein.
Oui, mais ça... Vous savez, allez voir un psy. On va voir un psy. Quand on fait cette démarche, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie. Mais ça demande du courage, vous savez aussi. Ça demande du courage parce qu'il faut se confronter à ce qui nous fait peur, à ce qui nous fait mal et être amené à le revivre. Et parfois, bah, y a des gens, ils mettent tout ça à l'intérieur d'eux-mêmes, ils font comme si ça n'avait pas existé, ils se plongent pas sur eux-mêmes, il n'y a aucune possibilité de remise en question. Vous voyez, il y a une forme de rigidité qui se construit. En tout cas, votre belle-mère a fait un mal fou. Votre femme.
Ouais.
Et peut-être que vous, en tant que mari, parce que je trouve, encore une fois, vous êtes un mari très, très attentionné, très, vous comprenez bien les choses. Vous, ça serait bien de finalement d'y aller moins souvent. Qu'elle prenne un peu de distance avec cette famille.
Ben, ce qu'il y a, c'est que, ce qu'il y a, c'est que comme elle nous rend service en gardant les enfants,
mais à quel prix ? À quel prix, Stéphane ? À quel prix ? Et puis franchement, moi, je m'inquiète un peu pour votre fille, parce que, voyez, le côté... Vous avez remarqué. Vous l'avez remarqué. Parce que vous êtes plus extérieur que... Ben, elle la dénigre, peut-être pas, m'avez-vous dit, mais elle ne la valorise pas. Si elle voit une mini, vous voyez, enfin... Alors évidemment, elle n'a pas la même influence qu'elle l'avait sur votre femme, parce que vous êtes ses parents. Donc, mais enfin, si votre fille, elle va là-bas et que le garçon, il a, vous voyez, lui, il aimait, c'est formidable tout ce qu'il fait. Et puis qu'elle, elle est un peu comme la mère et que, elle n'est pas bonne à grand chose. Mais franchement, il y a peut-être d'autres modes de garde qui lui seraient plus bénéfiques. Vous voyez, parce que j'entends ce que vous me dites, mais c'est un peu en double tranchant. Elle nous rend service, elle vous rend peut-être service, mais elle démolit votre femme.
Et puis là, quand ça s'est passé, là, le dimanche, il y avait le samedi où ça s'était bien passé, puis le dimanche, elle commençait à crier et tout. Puis des fois, ça peut durer longtemps, puis elle répète toujours les mêmes choses. Puis après, elle passe à un autre truc, et puis voilà. Et après, moi, je ne savais pas comment faire. Alors j'ai dit... il y a un truc qui l'a un peu freiné, quoi. J'ai dit, je suis bien content d'aller travailler cet après-midi parce que comme ça, je vous entendrai pas vous disputer. En fait, c'était pas qu'elle se disputait, c'était dans un seul sens. C'était qu'elle, elle l'accablait de reproches.
Il faut le dire. Stéphane, vous avez été encore bien gentil. Je pense que, je sais que c'est compliqué, mais je vois sur votre petite fiche, je voudrais savoir comment avoir de bonnes relations avec ma belle-mère. Alors, je sais pas si c'est... Vous, qui à un moment avez dit cela, parce qu'on voit que vous me dites, au fond, vous la craignez parce qu'elle tient des propos très durs, implacables. Mais vous, c'est pas votre mère. Donc, à un moment, peut-être qu'aussi ça ferait du bien à votre femme, quand vous êtes témoin d'une scène comme celle que vous décrivez, où votre belle-mère, comme vous dites, elle ne se disputait pas. C'était votre belle-mère qui ressortait ses vieilles histoires pleines d'amertume et de rancœur pour une fois de plus dénigrer sa fille, vous, en tant que mari, encore une fois en restant correct, mais en disant ça va là, les vieilles histoires ça suffit, et arrêtez de dénigrer constamment ma femme.
Oui, non, mais
ce qu'elle, elle ne peut pas faire.
Être un peu plus courageux,
affirmer. Parce que qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce qu'elle peut vous faire ?
Oui.
Et en tout cas, pour le moment, votre femme, malheureusement, face à cette mère, elle est écrasée. Et elle est l'enfant qu'elle a été.
Ben, une fois, j'ai entendu sa sœur, ma belle-sœur, qui disait « il faut la mater ». Mais quand je repensais à ça ces derniers jours, ça me faisait mal. Mais c'est une famille ordinaire en apparence.
Oui.
Mais J'ai entendu ça il y a longtemps, hein. C'était quand même il y a longtemps.
Oui, hein.
Un peu calmé.
Mais une famille ordinaire où il y a une forme de violence ordinaire aussi, où votre femme a tenu un rôle un peu particulier.
Il faut la mater, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut la mater.
On te la donne, il faut la mater, enfin...
Oui, ça veut dire quelqu'un qui n'a plus de résistance, en fait, qui ne peut plus se défendre. Et en fait, c'est ça, en fait, parce que maintenant... Elle a beaucoup de mal dans les conflits. Elle est toujours battue d'avance. Dans les conflits en général, hein, pas seulement dans la famille.
Mais oui.
Mais dans les conflits, elle est battue d'avance.
Oui.
Et elle a aucune résistance dans les difficultés. Elle est tout de suite battue parce qu'elle a été battue, pas physiquement.
Non, mais on l'a cassée.
Moralement, psychologiquement.
Moralement,
oui, voilà,
c'est ça. Quand un parent répète à son enfant, parce que c'est ça qui est insidieux dans l'éducation toxique, c'est que c'est pas une fois que l'enfant entend des paroles qui le dénigrent, ça se répète. Et quand ça vient d'un parent en qui l'enfant a toute confiance, qui peut être un modèle pour lui, ben finalement ça s'insinue comme un poison en lui, et il finit par croire. Enfin, c'est-à-dire que les paroles d'un parent pour un enfant, ça a valeur d'oracle, mais c'est un poids fou. Et l'enfant, ce qui est terrible, par amour pour ce parent qu'il maltraite, parce qu'il y a plusieurs façons de maltraiter un enfant, il lui reste loyal, et parfois même lorsqu'il est adulte. Et quand on a dit à un enfant qu'il était bon à rien, ben, par loyauté et par amour pour ses parents, il obéit, il a de mauvais résultats scolaires, après il n'arrive pas à trouver sa place, votre femme elle est dans un boulot, elle est tellement stressée, elle est tellement qu'elle n'arrive jamais à avoir un emploi stable. Ils l'ont fait énormément souffrir. Et pourtant, vous voyez, elle y retourne dans cette famille. Et régulièrement, à nouveau, on s'en prend à elle. Donc, il faut arrêter le massacre, Stéphane.
Ouais.
Il faut arrêter. Parce qu'il y a la thérapie qu'elle fait à côté. Mais tant qu'elle retournera systématiquement dans cette famille où elle ne peut pas, pour le moment, réagir, il faut que vous preniez sa défense. Ou en tout cas, que vous en parliez avec elle, en disant « c'est plus possible ». En tout cas, moi, je veux plus accepter de voir la façon dont on te malmène. Parce que sinon, au fond, elle doit penser que c'est normal, c'est comme ça.
Mmh.
Elle a que ce qu'elle mérite. Et vous êtes son mari, elle a confiance en vous. Et le fait, je pense que ça pourrait lui faire du bien, si vous lui en parliez en disant « moi, je peux plus ». Je peux plus voir le mal qu'on te fait, ces paroles que tu entends. Je peux plus supporter ça, et c'est moi qui vais devenir violent, pas physiquement, mais en mots. Je veux plus entendre ça.
En fait, on est un peu pris dans un système familial où on est.
J'entends.
On n'a pas le droit, en fait, de ne pas y aller parce que sinon,
vous allez le prendre.
La famille. Ouais.
La famille,
c'est sacré.
Alors,
par exemple, ce que je vous dis, je le dis. Je le dis à ma femme, je lui dis, mais quand même, ta mère, t'as vu tout ce qu'elle t'a fait depuis toutes ces années et tout ça.
Oui.
Et elle me répète comme un disque rayé, elle me répète tout le temps. Alors, il y a deux trucs qu'elle me répète, c'est mes parents ont fait...
22h, minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
Bonsoir Dimitri.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue dans Parlons-nous.
Bah merci, je suis ravi de vous avoir en ligne.
Moi aussi.
Et alors du coup, oui, je vous appelais pour faire écho au premier témoignage de la soirée, qui est celui d'Olivier.
Oui, le témoignage d'Olivier. Alors pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous à 22h, Olivier traversait une passe très difficile, puisqu'après 22 ans de relation avec sa femme, cette dernière avait pris la décision de se séparer. Et Olivier se sentait très perdu, puisqu'il l'avait connue, il avait 17 ans. Il n'avait connu qu'elle, et il était tellement perdu au moment de la séparation qu'il avait eu un geste extrême. Voilà. Et depuis, il remonte la pente, et ça va aller mieux. Mais voilà. Qu'est-ce qui vous a donné... finalement envie d'appeler vous Dimitri ce soir, au fond, suite à ce témoignage, vous aviez envie de lui dire quelque chose ou ça a fait écho en vous?
Ouais, parce que bon, pendant que je vous écoutais, je faisais à manger en même temps, puis je faisais deux, trois petites bricoles.
Oui.
Et puis à un moment donné, je vous ai entendu lui dire qu'il fallait pas qu'il se donne tous les torts.
Oui.
Parce que on a tendance à se donner tous les torts.
Se culpabiliser,
Ouais. Et moi, j'ai eu en octobre une séparation après 9 ans de couple.
Oui.
Et j'ai eu ce même réflexe de me donner tous les torts en me disant oui, ben c'est normal qu'il m'a quitté parce que j'étais trop ceci, j'étais trop cela. Et j'ai eu des très bons amis qui ont été là. J'ai eu la chance d'être entouré.
Oui.
Où ils m'ont dit, il ne faut pas que tu prennes tous les torts pour toi. C'est un couple, c'est deux personnes. Voilà. Mmh. Et je m'en suis rendu compte, effectivement, plusieurs semaines après, plusieurs mois après. Voilà.
D'où l'importance de vos amis, finalement, qui, eux, vous connaissez, oui, et qui vous ont permis de faire un peu la part des choses.
Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et puis, du coup, j'en suis pas arrivé, moi, à une tentative. Hein. Ça a été très compliqué. Il y a eu des grosses périodes sous anxio. Le matin, c'était vomissement sur vomissement.
C'était très mal, oui.
Ouais, je ne mangeais
plus
du tout.
Très angoissé.
Ouais, très angoissé. Je ne mangeais plus du tout. Ça m'arrivait de ne plus manger pendant une semaine. Après le premier confinement,
j'étais. Bon, je vois que vous avez repris, là, puisque vous me dites que vous étiez en train de préparer un petit frichti, là, quand vous écoutez.
Oui, exactement.
Ça me rassure.
Voilà, une bonne bolognaise maison avec de la purée.
Vous nous donnez faim, arrêtez, Dimitri. Bon. En tout cas,
donc, du coup,
oui,
voilà.
C'était une. Vous étiez. Mais vous l'aviez connu jeune aussi, puisque je peux dire votre âge.
Tout à fait, 29 ans.
Et vous me dites, vous êtes restés 9 ans ensemble, donc vous aviez 20
exactement.
Ans.
Exactement. Exactement. Et en fait, la grosse difficulté, ça a été que quand je me suis mis en ménage avec lui, c'est que je venais de quitter la maison familiale. Donc, ce qui fait que je n'avais jamais connu la solitude.
Oui. Ça joue, ça.
Voilà.
Hein.
Exactement.
Mais
j'avais
oui.
peur. J'avais peur de. C'est bête, hein, mais j'avais peur de faire un malaise, de que personne me trouve.
Oui.
Voilà. J'avais jamais connu la solitude, en fait. Et
oui.
bon, après, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie aussi. Le moment où ça allait pas forcément très bien, j'avais aussi envie d'appeler parce que je vous écoutais tous les soirs également.
Vous auriez pu appeler. Hein,
voilà. Dimitri. Oui, c'est vrai, mais j'ai jamais trouvé forcément le courage.
Dommage
à ce
parce qu'on est là justement et parfois on sait pas trop à qui parler. Vous aviez la chance d'avoir des amis autour de vous.
Tout à fait, exactement.
Mmh.
Et puis RTL a été ma grande amie hein, puisque tous les matins c'est RTL matin avec Monsieur Calvi.
Oui.
Ensuite c'est les grosses têtes, quand je peux, Monsieur Pro, et puis le soir vous, voilà. Donc le fait de regarder, d'écouter tout le temps les mêmes voix, ça m'a aussi beaucoup apaisé.
Ah oui, c'était des repères pour vous dans la journée.
Exactement, ouais.
Oui.
Des personnes, des voix qui revenaient tous les jours, donc c'était très apaisant, voilà.
Mmh.
Et voilà. Et en fait, ce qui me mettait mal à chaque fois, ce qui a fait que ça durait 6 mois, la dépression, c'est qu'à chaque fois on se revoyait.
Ah bon voilà. Et pourquoi c'est vous qui le sollicitiez ou c'est lui qui revenait vers vous? Comment?
Un peu les deux, en fait.
D'accord.
Voilà. En fait, il y a des moments où je mettais un mot de distance pour aller mieux parce que mes amis me conseillaient, ils avaient totalement raison.
Oui.
Et puis on revenait forcément à se voir pour essayer de. Moi, j'avais forcément l'envie de remettre les choses en place. Et puis lui me revoyait pour être ami en fait. Hein, donc.
Par
amitié.
Ah oui, mais là, il vous a pas ménagé parce que, au fond, il avait aussi besoin de maintenir le lien, mais lui pouvait le faire alors que pour vous, c'était très douloureux.
Oui, parce qu'il y a des moments où j'allais très bien, où je recommençais à manger, où ça allait bien. Et puis, on se revoyait, puis il me disait, non, c'est terminé, n'imagine pas, je ne reviendrai pas, je ne t'aime plus, il y a quelque chose qui s'est cassé.
Alors, il fallait qu'il s'en aille complètement et qu'il vous laisse tranquille.
Ouais.
Mais on n'a pas la force dans ces moments-là.
Ah, tout à fait, exactement.
Ouais.
Exactement. Donc, du coup, un jour, je lui ai dit, sur le conseil d'un très bon ami, je lui ai dit, écoute, on va arrêter là, on va plus se voir pendant un moment donné. Peut-être qu'un jour on se reverra pour une relation amicale quand j'irai mieux, mais j'arrive pas à faire la part des choses. Moi je t'aime toujours et j'ai beaucoup de mal à tourner la page. À chaque fois c'est des périodes où je ne mange pas, j'ai quand même perdu plus de 15 kilos, hein, donc physiologiquement, et j'ai senti, j'avais des douleurs dorsales. Puis comme je dis, je vomissais tous les matins. Donc,
Vous avez repris depuis
Non, pas du tout.
Non.
Je suis toujours à 78 et puis je ne reprends pas en fait.
Okay. Mais vous avez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'avez plus de vomissements le matin. Comment vous,
non,
avez, parce
ah
que
non.
vous me parlez de dépression, hein, vous avez eu une, ouais. vraiment une période très difficile. Comment, alors vous aviez la chance d'être très bien entouré, des amis, de bons conseils qui étaient présents pour vous. Vous avez vu un médecin ou?
Alors oui, j'avais demandé, c'est les médecins qui m'ont prescrit les anxiolytiques.
Les anxiolytiques, hein.
Voilà, mmh. exactement. Et j'avais demandé au CMP, j'ai pris contact avec eux.
Oui, centre médico-psychologique.
Tout
oui.
à fait. Et il y avait 6 mois d'attente.
Ah là, oui, voilà. C'est ça le problème.
Puisque
oui,
on est en pleine période de reconfinement.
Oui.
Et c'était, voilà. Et donc, quand j'ai mis cette période, enfin, quand je lui ai abordé cette période d'un mois, où je lui dis, enfin, même plus, hein, je lui ai dit, écoute, on va plus se voir pendant un moment parce que ça devient plus possible pour moi, pour ma santé. Mm-hmm. Il a été très, très surpris, en fait, limite choqué, en disant, mais c'est pas possible, voilà, je sais pas si on devrait le faire ou pas. J'ai dit, si, c'est, moi, j'en ai le besoin, voilà, mm-hmm. et comme ça, et en fait, quand on s'est revu quelques temps après, alors on n'a pas tenu un mois, on s'est quand même revu entre-temps, mmh. parce que un ami m'avait dit, t'inquiète pas, un jour tu auras un électrochoc et tu vas passer à autre chose. Et puis, les semaines allant, on s'est revu, et puis il m'a dit, bah, comment tu vas? Et j'avais le grand sourire, j'allais vraiment bien. Je lui ai dit, écoute, franchement, bah, tout va bien. Je pense peut-être à faire une coloc avec un ami. Là, j'ai un projet d'entreprise, tu sais, le projet que j'avais envie de faire il y a quelques années et que j'ai pas fait, bah, je vais le faire, ça y est,
oui.
je vais me lancer.
Oui.
Donc, je vais très bien, voilà. Et là, il a fait une tête, et il était décomposé et il
ah,
m'a
oui.
dit, ouais. Il a commencé à me dire, ah, je crois que pour moi c'est facile, voilà. Je lui dis, bah, je sais pas si c'est facile ou pas. Je lui dis, en tout cas, moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai pris la distance que tu as voulu que je prenne envers notre ancien couple. Et puis, moi, aujourd'hui, je vais bien, je vais mieux. Et puis,
oui, mais c'est lui qui allait moins bien, du coup. Parce qu'au fond, il était pas heureux de vous voir mieux. Donc,
bah, apparemment, voilà.
Bah, parce que, au fond, il voyait que, bah, vous lui échappiez.
C'est ça. Il m'a dit, tu t'es jamais posé la question de savoir. Ouais, il m'a dit, tu t'es jamais posé la question de savoir ce que moi je ressentais vraiment. Tu sais, je l'ai jamais vraiment bien vécu non plus. Quand je rencontre des gens, je fais toujours des rapprochements avec toi.
Mais c'est lui qui avait pris la décision de partir, quand même.
Tout à fait.
Bon, alors, écoutez. Et puis plusieurs fois, vous lui aviez, enfin vous auriez aimé renouer avec lui.
Exactement.
Ouais.
Donc du coup, là, soudainement, les discours ont changé. C'est-à-dire que j'avais plus forcément tous les torts, mais qu'il a admis qu'il en avait aussi, que le fait d'avoir fait la politique de l'autruche pendant plusieurs années, bah, c'était pas forcément la meilleure solution. Il l'a avoué, et que bah du coup, c'est pour ça que ça crée chez moi des tensions, enfin, entre nous des tensions. Mmh. Et voilà.
Oui, comme vous alliez mieux, finalement, vous avez arrêté de vous mettre tous les torts sur le dos. Vous aviez à nouveau des projets. Et au fond, lui, comme dit, a pu aussi bah, se remettre un peu en question et voir que arrêter de vous accabler. Parce que.
Tout à fait.
Mais et que ça a pris combien de temps, Dimitri? Parce que c'était il y a combien de temps, en fait, cette rupture?
C'était en octobre.
Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est assez récent encore. Et,
ouais.
et cet électrochoc dont vous parlez, cet ami, comment c'est? Vous voyez, vous dites un jour, vous l'avez revu, et là, ben vous êtes senti différent, comme s'il y avait une distance, au fond.
Bah, parce qu'en fait, la fois où j'ai voulu mettre de la distance pour de bon, je me suis dit, écoute, ça y est, il faut vraiment que tu reprennes les choses en main, faut que tu penses à toi, parce que tu ne peux pas continuer comme ça, tu perds du poids vu d'œil, tout le monde te le dit, et puis, bah, t'es pas bien, voilà, il faut que, il doit bien y avoir quelque chose, la vie est courte, il doit bien y avoir quelque chose qui te donne envie, il doit bien y avoir quelque chose qui va te remotiver à sortir, voilà. Et c'est l'ami justement qui m'avait bien conseillé de mettre de la distance, qui m'a dit, bah écoute, t'avais pas ce projet-là il y a quelques années. Tu dis, bah écoute, si, c'est je l'ai, mais vas-y, bah aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je lui dis, bah c'est vrai.
Il faut le garder, cet ami, hein, il est formidable.
Oui, ça fait des années.
Bah, franchement, c'est formidable d'avoir un ami comme ça. Je comprends.
Mais vous avez fait même... des études de psychologie. Hein.
Ah, bah, parce que j'allais vous dire, vous n'avez pas besoin de psy avec un ami pareil. Il est vraiment, oui, il est formé. Il a été, en tout cas, tellement bienveillant pour vous, quoi. C'est un véritable ami.
Oui. Ah oui, oui. Bah, quand on est au téléphone, on reste 2-3 heures.
Ah oui, bah oui, je comprends. Et alors, aujourd'hui, vous avez moins peur de la solitude, puisque ça a compté aussi, ça. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle avec Olivier, même si vous êtes beaucoup plus jeune. Mais Olivier, bah, à 17 ans, il était en couple avec sa femme, très vite. Mais il a quitté ses parents pour s'installer avec elle. Ils ont eu 3 enfants. Il a jamais vécu seul, Olivier. Alors vous, vous êtes un homme beaucoup plus jeune, mais... vous avez quitté vos parents pour vivre avec ce garçon. Et la solitude vous faisait très peur, c'est compréhensible. Aujourd'hui, est-ce que vous appréciez même des choses, au fond, dans le fait de vous retrouver seul, enfin, plus fort, finalement, oui. Plus solide?
Ben, c'est-à-dire que, en fait, quand il y a eu ce retournement de situation avec lui, il a exprimé le souhait de vouloir revenir.
Ah tiens.
Donc voilà. Donc là, on est en train de réfléchir. Normalement, il devrait revenir le mois prochain, mais on repousse en fait l'échéance à chaque fois parce que je sais pas. Si... En fait, bon, moi, j'ai pris mes petites habitudes. Hein. Je lui ai dit, oui, tu sais, moi, j'ai mes habitudes. Je serai pas tout le temps à m'occuper de toi. Voilà. Bah, comme je vous disais, hein, le matin, je me lève. La première chose que je fais, c'est mettre le replay de RTL le matin. Après, c'est mes grosses têtes.
C'est super. On est vos amis aussi de radio, ouais. Voilà, on vous accompagne tout au long de la journée. Oui, et j'espère qu'en tout cas, je comprends un peu votre réserve, parce que, ok, s'il revient, si vous en avez envie, mais qu'il ne vous refasse pas le coup. Hein.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça qui me fait peur, en fait.
Oui.
Même si parce qu'après tout, il a changé.
Vous pourriez voir un peu reprendre, mais il est bien quelque part, lui, il vit bien quelque part.
Oui.
Ben, pourquoi il ne resterait pas là où il est, et quitte à ce que vous repreniez, mais en voyant... Vous voyez ?
C'est ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire qu'il vient de temps en temps dormir à la maison, mais...
Parce qu'il ne faudrait pas que... Enfin, vous allez beaucoup mieux, il ne faudrait pas qu'il vous déstabilise à nouveau, Dimitri. Ouais. Parce que vous avez vraiment... vous avez été très mal, vous avez beaucoup souffert, ça vous a fait très mal, cette rupture, mais on voit aussi que cela vous a construit. C'est-à-dire que vous avez vu que, au fond, de quoi vous étiez capable, et que vous êtes capable de vivre seul. Et finalement, ce projet que vous aviez un peu oublié, abandonné, mais aujourd'hui, à nouveau, vous voulez le concrétiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, vous vous occupez de vous, vous pensez à vous. Là où peut-être c'est compliqué quand on a votre âge, vous savez, au début de la vie, comme ça, avant 30 ans, il y a tellement de choses à construire, il faut construire sa vie professionnelle, puis quand on est en couple, construire son couple, enfin, c'est dur d'être sur tous les fronts.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, avant de le rencontrer, j'étais au lycée, j'étais au lycée de pendant que je l'ai rencontré, d'ailleurs, au moment où je l'ai rencontré, et j'étais l'ado un peu cool, un peu populaire, voilà, qui sortait toujours des blagues, nos prises de tête, voilà.
Oui.
Et après, au fil des années, il y a eu une image qui s'est construite, c'est-à-dire que j'étais devenu quelqu'un de très caractériel, de soupolé, qui gérait un peu tout, qui était très, voilà, entre guillemets, le maître des clés du couple, quoi, qui portait la culotte, voilà. Et quand il est parti, je me suis senti beaucoup plus léger. Oui. Même vis-à-vis de l'entourage, je me sentis beaucoup plus serein, moins de charge, moins de prise de tête. Et voilà, en fait, parce que le fait de se retrouver seul, ça permet de souffler, d'évacuer, en fait, et d'avoir personne.
Mais de sortir d'un rôle, au fond, vous voyez, on est là face à soi-même. Or, c'est vrai qu'on peut très vite occuper un certain rôle dans le couple, dans la famille, et qui vous pesait, finalement.
Ouais.
Et ça, il faut le garder en tête. Parce que parfois, quand on se retrouve, malgré vous, vous pourriez reprendre chacun un certain rôle. Et vous n'en voulez plus aujourd'hui. Ça vous pesait.
Exactement, parce que je m'étais perdue et j'ai retrouvé la personne que j'étais avant, en fait, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et même mes amis l'ont vu. Et,
vous avez retrouvé de la légèreté, vous le dites d'ailleurs. Vous étiez quelqu'un de plutôt qui avait de l'humour et tout. Vous l'aviez perdu avec lui, ça.
Bah ouais, j'avais cette image de, on disait, les gens ont peur de toi, de tes réactions. Voilà.
Et pourquoi ça? Comment vous l'analysez qu'à son contact, vous soyez devenu beaucoup plus irritable finalement, vous ayez perdu cette légèreté?
Parce que quand je l'ai connu, en fait, bah, il pouvait pas passer un appel pour commander une pizza. Il voulait toujours que je gère tout, les papiers, voilà. Et en fait, ça a devenu le reproche après de dire, bah, écoute, tu veux tout gérer, tu veux tout contrôler.
Oui. D'accord. Après, c'était pour mieux vous le reprocher au fond. Au départ, ça l'arrangeait bien. Vous occupiez tous les trucs un peu chiants. Et puis après, il a eu beau jeu de vous dire, oui, c'est toi qui gère tout, tu me laisses aucune place.
Exactement.
Ouais, je comprends. Attention à ça, hein, Dimitri.
Oui, exactement, ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire les choses.
Et puis laissez-le, cette fois-ci, qui décide, enfin, vous voyez, que ça ne soit pas toujours...
Prendre l'initiative.
Voilà, voilà, vous allez voir. Et puis si vous le pouvez, maintenant que vous vous sentez bien chez vous, vous voyez, si vous pouvez prolonger un peu comme ça, avant de vraiment faire le grand saut... Vous ne perdez pas de vue, en tout cas. Parce que c'est vrai que c'est très facile parfois de se perdre dans le couple. Et surtout quand on est un peu jeune et qu'on a besoin encore de savoir qui l'on est, de se construire, de s'affirmer dans certains domaines. Le couple, tout d'un coup, on pense tout combler, quoi. On mise beaucoup, évidemment. Et on peut s'y perdre un peu.
C'est vrai.
C'est ce que dit Théodora. Elle dit vraiment... attention à ce qu'il ne vous fasse plus de mal. Et il y a la cravate rouge qui dit peut-être que en ayant ressenti de telles blessures, vous pourriez vous donner le temps de penser d'abord à votre avenir à terme, puisque il vous a quand même fait beaucoup souffrir. Donc c'est vrai qu'on est tous là à dire oh là là, vous allez bien aujourd'hui. Oui. Donc prudence. Et Joseph, dernier message, n'y retournez pas forcément, Dimitri. Vous êtes libre, vous avez pu trouver un équilibre. C'est tellement précieux.
C'est vrai.
Bon, pensez à vous. Ne vous perdez pas de vue. Et puis sinon, on est là. Hein.
Oui. C'est gentil en tout cas. C'est gentil. Et puis pense à moi. C'est ce que j'ai commencé à faire et ça fait du bien. C'est vrai.
Voilà. On vous embrasse bien fort, Dimitri.
Bah, moi également. Et puis peut-être à très bientôt. Alors.
Et merci de votre fidélité RTL. Je vous embrasse. Au revoir.
Bonne nuit. Au revoir.